Bonsoir à vous tous. On entend bien ? Très bien. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette veillée. Je suis très impressionné de voir en vous tout un peuple d'adorateurs. Et en vous regardant, j'ai une petite idée de ce que le Christ présent dans le Très-Saint-Sacrement, sur l'autel, voit quand il regarde l'assemblée de ses enfants. Et vous, je regardais tout à l'heure la statue du curé d'Ars, vous connaissez ce petit mot d'un saint paysan qui avait dit au curé d'Ars qu'il interrogeait pour savoir ce qu'il faisait à genoux devant le tabernacle de l'église, il disait « Je l'avise et il m'avise ». Eh bien, c'est pour rentrer dans cet avis, dans ce regard mutuel, que nous allons ce soir plus particulièrement demander à la Vierge Marie, qui n'a eu Dieu que pour son Fils, de nous enseigner un regard toujours nouveau sur ce mystère insondable de l'Eucharistie. Nous sommes dans l'octave de cette fête du Très-Saint-Sacrement qu'avec, en communion avec toute l'Église, nous avons célébré hier, et nous avons besoin d'être toujours davantage affermis dans la contemplation de ce mystère, parce que très vite, notre fatigue nous rattrape, les raisonnements nous guettent et nous perdons la fraîcheur de cette présence. Et nous avons besoin d'y revenir sans cesse et il y a plusieurs chemins pour aller jusqu'à Dieu. Mais parmi tous les chemins qu'il existe, il y a aussi un raccourci et qui s'appelle la Vierge Marie qui nous épargne la fatigue et le découragement, peut-être, qui peut nous guetter ou nous assaillir quand nous sommes devant la présence réelle de Jésus qui est vraiment présent mais que nous avons bien du mal parfois à lui être présent. Alors ensemble, nous allons demander à cette mère très bonne qu'elle nous enseigne l'amour eucharistique du fruit de ses entrailles, de son Jésus, de son Dieu, de notre Sauveur. Entre la Vierge Marie et le Très-Saint-Sacrement, ce n'est pas simplement une relation de piété ou de dévotion. Ce que la Vierge Marie a à nous enseigner, ce n'est pas uniquement une manière de prier ou de nous approcher de ce mystère, c'est le modèle insurpassable pour nous apprendre à accueillir celui qui nous dépasse. Il est vrai que dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles en particulier, à première lecture, il n'est pas fait mention de ce rapport entre la Vierge Marie et l'Eucharistie, en particulier dans le récit de l'institution au soir de la dernière scène. Les évangélistes ne mentionne pas la présence de la Sainte Vierge. On sait en revanche qu'elle était vraiment présente parmi les apôtres, nous rapporte le livre des Actes des Apôtres dans le premier chapitre, où unis avec les apôtres d'un seul cœur dans la prière, ils attendaient ensemble, après l'Ascension, la grâce de la Pentecôte. Et sa présence dans les célébrations eucharistiques des toutes premières heures de l'Église est également attestée dans le livre des Actes des Apôtres. Elle était là présente avec les fidèles de la toute première génération chrétienne. Comme il nous est rappelé dans un des sommaires des Actes des Apôtres, elle était assidue à la fraction du pain. Mais au-delà de cette mention à sa participation à des banquets eucharistiques, aux premières messes qui ont été célébrées aux toutes premières heures du christianisme, ce que la Vierge Marie nous enseigne surtout, c'est l'attitude que nous devrions avoir, que nous aimerions avoir face à ce mystère. Elle est cette maîtresse de vie tellement intérieure que c'est vers elle que nous nous tournons pour la supplier de nous apprendre ce qui nous manque. Je voulais vous partager quelques mots, et je citerai ma source, parce que je l'ai copié, je m'en suis inspiré, dans un texte qui est de toute beauté, et qui est le texte d'un saint, c'est saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, le jeudi saint de l'année 2003, c'était donc 2 ans avant son rappel à Dieu, avait publié un texte que vous connaissez peut-être, mais qui, comme beaucoup de textes de Jean-Paul II, est encore trop peu connu, trop peu médité, et qui s'appelle « Ecclesia de Eucharistia », l'Église naît de l'Eucharistie. Et le dernier chapitre de cette encyclique est consacré à la figure de la Vierge Marie, qu'il appelle la femme eucharistique. Alors les quelques mots que je voudrais vous partager sont intégralement pris de ce chapitre que je vous invite plus sûrement à lire, à relire. C'est magnifique. Transparaît dans ce chapitre tout l'amour qu'il porte pour celle qui, sa vie durant, fut vraiment sa mère et qui éclaire ce qui fut sa devise « Totus tuus ». Et on saisit mieux dans le rapport que saint Jean-Paul II entretenait avec la Vierge Marie et l'Eucharistie, quel est ce lien très fort qui a uni dans sa propre vie ces deux mystères. Jean-Paul II appelait la Vierge Marie la femme eucharistique et il invitait avec insistance toute l'Église à regarder la Vierge Marie comme un modèle et à l'imiter dans son rapport avec ce mystère très saint. L'Eucharistie, c'est un mystère de foi qui dépasse absolument notre intelligence parce qu'il nous oblige à nous abandonner totalement de la façon la plus pure, la plus nue à la parole de Dieu. Et personne d'autre au-dessus de la Vierge Marie ne peut nous servir de soutien et de guide dans cette démarche de foi. À chaque fois qu'un prêtre, lors de la célébration d'une messe, refait les gestes du Christ, redit les paroles de Jésus, in persona Christi, en obéissance à son commandement, faites ceci en mémoire de moi, c'est chacun de nous, les fidèles, qui sommes invités à accueillir, dans le même temps, l'invitation que la Vierge Marie donnait déjà à Cana, aux disciples, quand elle leur recommandait « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et il est beau de mentionner, en particulier dans l'Évangile selon saint Jean, qu'en effet les noces de Cana ont été le premier signe par lequel le Christ s'est fait connaître et révélé à ses apôtres. Et avec sa sollicitude toute maternelle, la Vierge Marie, à chacune des messes, nous redit ce qu'elle disait déjà à Cana, « N'ayez aucune hésitation, n'ayez aucune crainte ». Ayez pleinement confiance dans la parole de mon Fils, lui qui un jour a changé l'eau en vin, est également capable de faire de ce petit pain qui n'est même pas du pain, de ce vin et son corps et son sang. Voilà la recommandation que depuis Cana, la Vierge Marie adresse aux disciples de son Fils. Et nous voyons déjà dans les noces de Cana que la Vierge Marie a exercé sa foi eucharistique avant même l'institution à proprement parler de l'Eucharistie par le fait même qu'elle s'est offerte totalement, qu'elle a offert son sein virginal pour l'incarnation du Fils de Dieu, du Verbe de Dieu. Et elle est à même de nous apprendre d'une façon insurpassable à voir dans ce mystère de l'Eucharistie la prolongation du mystère de l'incarnation, qui, vous le savez, et peut-être aujourd'hui et dans l'Église même, le mystère, je n'allais pas dire renié, mais le mystère qui n'est pas si contemplé que cela, et que petit à petit se délite dans le cœur même de certains chrétiens, la foi en la divinité de ce Jésus fait totalement homme. Vous savez, à l'Annonciation, la Vierge Marie a vraiment conçu le Fils de Dieu dans la vérité physique de son corps et de son sang, et au moment de l'Annonciation, elle a comme anticipé en elle ce qui se réalise en nous sacramentellement à chaque fois que nous recevons à la communion le corps et le sang de Jésus. Il existe un rapport très profond, une analogie très profonde entre le fiat que la Vierge Marie répondit à l'ange Gabriel qui lui annonçait qu'elle deviendrait la mère de Dieu et l'amen que nous répondons quand nous recevons à la communion le corps de Jésus. Ce devrait être le même mot. Nous pourrions presque répondre fiat, parce que quand le prêtre, quand le célébrant nous présente le corps du Christ et nous le redit, ceci est le corps du Christ, nous pourrions presque dire ce que la Vierge Marie a répondu à l'ange, qu'il me soit fait, qu'il soit fait en moi selon ta parole. Que ce corps du Christ vienne en moi, sacramentellement, qu'il vienne et qu'il demeure. Et dans la continuité avec la foi de la Vierge Marie, il nous est demandé de croire que dans le mystère de l'Eucharistie, c'est le même Jésus, c'est le même Dieu, c'est le même Fils de Dieu et le même Fils de Marie qui se rend présent totalement dans la totalité de cette petite hostie, dans la totalité de ce vin devenu son sang. Heureuse celle qui a cru, s'est exclamée Élisabeth à sa cousine la Vierge Marie, quand elle est allée lui rendre visite au jour de la visitation. Eh bien, dans le mystère de cette visitation, la Vierge Marie a vraiment anticipé et la foi et la mission eucharistique de l'Église. Vous le savez, les plus anciens, il ne faut pas dire anciens, il faut dire aînés, les plus aînés parmi vous ont connu, ce que je suis jaloux de ne pas avoir encore connu, parce que je n'ai pas la chance d'être dans cette paroisse, des processions de la fête Dieu. Père, vous faites des processions de la fête Dieu? Comment? Des petites processions. Très bien. C'est un début. Une petite procession, c'est mieux que pas de procession. Vous savez, la solennité de ces processions de la fête Dieu, que certains d'entre vous certainement ont connu, ont vécu, quand vous étiez jeune enfant, peut-être avez-vous dressé des reposoirs, avez-vous décoré des reposoirs ou êtes-vous passé devant le dais du très saint sacrement en jetant sur le passage de Jésus les petites pétales qui étaient dans votre panier. Et c'est un signe très beau. Et vous savez que les processions du saint sacrement de la fête Dieu n'ont pas toujours existé sous cette forme dans l'Église. L'histoire rapporte que la première procession de la fête Dieu, première procession eucharistique, eut lieu, je crois, à Liège, au milieu du XVe siècle. Je ne suis pas très fort en histoire, même si j'ai eu la chance de pouvoir suivre une scolarité avant certaines réformes. Mais peu importe la date, ce que l'histoire nous enseigne, La foi nous révèle qu'en définitive, la première procession eucharistique a eu lieu exactement juste après l'Annonciation. À la fin du récit de l'Annonciation dans l'Évangile, selon saint Luc, il est indiqué que la Vierge Marie, en hâte, s'est rendue dans la maison de sa cousine Élisabeth. Cette hâte, cette course, c'est la toute première procession eucharistique de Jésus vivant au milieu de son peuple, la première procession eucharistique de toute l'histoire, ou plus exactement, la première procession de Dieu parmi les hommes depuis le drame du jardin d'Éden. Souvenez-vous pour mémoire, dans le livre de la Genèse, il y a ce moment, ce passage très beau, qui indique que Dieu, à la tombée du soir, aimait prendre le temps de se promener dans ce jardin de délices avec ses créatures, avec nos premiers parents. Il prenait ses délices parmi les hommes, il aimait à se promener parmi eux, et que ensuite, par suite du péché de nos premiers parents, de cette rupture, de ce drame qui est survenu dans la relation entre l'homme et son Dieu, on n'avait plus revu Dieu marcher sur la terre. Et juste après l'Annonciation, il y a comme la prémisse d'une espérance à nouveau totalement folle. On a réentendu déjà dans le sein de Marie Dieu marcher sur cette terre. Et la première marche qu'il a faite, il l'a fait en étant porté dans le sein de sa maman, avant que plus tard, après sa naissance, il ne se mette lui-même à marcher sur la route des hommes. Eh bien, c'est très beau, parce que dans ce mystère de la visitation, la Vierge Marie est mue par celui-là même qu'elle porte, et elle a le désir de ne pas le garder pour elle. Elle a le désir que le tressaillement que connaîtra le petit Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, ce soit le tressaillement de l'âme de chacun des enfants de Dieu qui ignore encore que Dieu a rétabli son alliance et que a été recréée la familiarité de ce Dieu qui, au début du monde, aimait à marcher avec ses enfants. Et ce faisant, la Vierge Marie est devenue également le premier tabernacle de l'histoire du monde. Un tabernacle vivant, un tabernacle amoureux, un tabernacle fidèle, et elle nous invite à devenir, à son image, à son modèle, des petits tabernacles de la présence de Jésus, son Fils. Il y a, après ce mystère de la visitation, le mystère de la nativité, et saint Jean-Paul II écrit cette phrase magnifique, « Le regard extasié de Marie, contemplant le visage du Christ qui vient de naître et le serrant dans ses bras, n'est-il pas le modèle d'amour inégalable qui doit inspirer chacune de nos communions eucharistiques, chacune de nos adorations. » Je voulais faire un petit excursus sur le mystère de la Nativité. Peut-être connaissez-vous un texte qui a été écrit par un auteur dont on n'aurait pas imaginé précisément qu'il puisse en être l'auteur, et qui s'appelle Barjonas. C'est un texte qui a été écrit dans un camp de prisonniers en captivité en 1940 en Allemagne. Un écrivain connu avait été du nombre des prisonniers et Noël approchait. Et ses camarades lui avaient demandé d'écrire une petite pièce pour mettre en scène le mystère de Noël. Et dans cette pièce, Barjonas, il y a des passages qui sont absolument lumineux et qui décrivent les sentiments de la Vierge Marie au moment de la naissance de son enfant, qui sont vraiment d'une très haute intuition. Et il y a cette phrase en particulier où l'auteur dit « Et la Vierge Marie est là, elle tient le corps de son petit, elle le tient et elle le serre, c'est son bébé et c'est son Dieu. » Et ce texte a été écrit par quelqu'un qui ensuite a renié la paternité de ce texte, puisqu'il s'est spécialisé davantage dans les théologies, dans les philosophies, pardon, davantage existentialistes. C'était Jean-Paul Sartre. Si vous avez un jour l'occasion de lire ce texte, je vous le conseille. Il est magnifique d'intuition et il nous aide à saisir ce mystère de l'incarnation qui opérait déjà à l'Annonciation et qui est éblouissant de lumière au moment de la naissance de Jésus. Et pour autant, s'il y a cette intimité si forte entre la Vierge et le Christ, et cette anticipation déjà si forte entre la Vierge Marie et le mystère de l'Eucharistie, ce n'est pas uniquement un mystère, ou disons un rapport doucereux, parce que déjà dans la vie de la Vierge Marie, la dimension sacrificielle de l'Eucharistie est déjà présente. Parfois, nous oublions cette dimension que dans le sacrement de l'autel, ce que nous célébrons, c'est le sacrifice non sanglant du Fils qui s'offre pour nous à son Père et qui rend présent, contemporain, le mystère et du Jeudi Saint et de la croix et du matin de Pâques. Et cette dimension sacrificielle de l'Eucharistie, la Vierge Marie l'a déjà vécue en préfiguration le jour de la présentation de son enfant, de son petit enfant au temple de Jérusalem, quand elle a rencontré le vieillard Siméon, qui avait alors prophétisé que son enfant deviendrait un signe de division et une épée qui lui transpercerait le cœur. Et en effet, nous le savons, le drame de son fils crucifié, elle l'a vraiment vécu en se tenant debout au Golgotha, au pied de la croix, où son fils, le fruit de ses entrailles, mourait pour le salut du monde. Et nous pouvons demander à la Vierge Marie qu'elle nous aide à entrer toujours plus avant dans le mystère de cette crucifixion, de cette mort, de ce sacrifice, pour que nous n'oublions jamais de quel mémorial la messe se fait l'écho. Le mémorial que nous célébrons, ce n'est pas uniquement le mémorial de la résurrection, mais aussi celui de la passion et celui de la dernière scène. Et nous pouvons essayer d'imaginer, suite à la résurrection dans les premiers temps du christianisme, quels ont pu être les sentiments de la Vierge Marie quand elle a écouté dans la bouche des apôtres, dans la bouche de Pierre, de Jean, de Jacques et des autres apôtres, les paroles mêmes de son Fils, « Ceci est mon corps, livré pour vous ». Ce corps livré pour le monde, elle en a été témoin. Ce corps livré pour le salut des hommes, elle l'a tissé en son sein. Et recevoir l'Eucharistie a certainement dû être pour la Vierge Marie comme un nouvel accueil et de l'incarnation, et de la crucifixion, et de la résurrection de son Fils. Et pour rester quelques instants encore avec la mère des douleurs au pied du Golgotha, nous pouvons nous rendre compte du lien unique qui unit l'Eucharistie à la Vierge Marie, parce qu'au moment où était consommé le salut du monde, où était consommée l'offrande eucharistique
du corps livré et du sang versé, ce corps-là, ce sang-là, comme dernière parole, se sont tournés vers Jean, autrement dit vers chacun d'entre nous, et a dit à chacun de nous, « Voici ta mère ». Alors nous voyons bien que la Vierge Marie, ce n'est pas uniquement une aide au niveau de la spiritualité, un petit coup de pouce spirituel qui pourrait nous aider. Elle est la porte que Jésus nous désigne lui-même pour rentrer dans l'accueil, dans l'acceptation du mystère du sacrifice de son Fils. Et à travers ce message, le Seigneur semble comme dire à chacun, ne tombe pas dans la présomption d'imaginer que sans ma mère, tu puisses t'approcher de ce mystère. Ne tombe pas dans l'orgueil de penser que sans la Vierge Marie, tu puisses vraiment vivre l'Eucharistie. Ne tombe pas dans l'imagination de penser qu'il y a un chemin qui passe au pied du Golgotha et qui le contourne et qui te conduirait jusqu'à la résurrection. Le chemin du ciel, il passe nécessairement par la croix, donc il passe aussi nécessairement par la Vierge Marie, présente au pied de la croix, en infinie communion spirituelle avec son Fils qui s'offrait pour le salut du monde, et cette présence d'intercession et de compassion de la Vierge Marie, elle est ce même mystère renouvelé dans chacune des Eucharisties du monde où la Vierge est réellement présente quand son Fils s'offre à son Père. Eh bien, nous pouvons saisir davantage que s'il n'y a pas d'Église sans Eucharistie et qu'il n'y a pas d'Eucharistie sans Église, il n'y a pas non plus d'Eucharistie sans la Vierge Marie. Elle n'est pas une aide, elle est une porte qui nous fait pénétrer davantage le mystère de Dieu et qui nous permet de l'accueillir. Et je m'émerveillais de voir la reproduction de Notre-Dame de Guadalupe, qui parmi toutes les représentations de la Vierge Marie à travers les âges et à travers les pays, a ceci de particulier que c'est une des très rares images de la Vierge Marie où elle est enceinte. Quand elle est apparue au petit Juan Diego au début du XVIe siècle, celle qui se prénommera l'impératrice des Amériques, elle était enceinte, comme pour nous signifier ce que l'Eucharistie devrait produire en nous. Il devrait nous faire gonfler le cœur, il devrait nous faire gonfler l'âme, il devrait faire grandir en nous le désir que Dieu soit enfanté en nous et devrait faire aussi grandir le désir que nous puissions contribuer à l'enfanter chez les autres. Voilà la vocation et la mission de tout baptisé, parce que c'est la mission et ça a été la vie de la Vierge Marie. Demandons-lui qu'elle nous apprenne à devenir des tabernacles vivants de la présence de Jésus Sauveur. Vous le savez, et peut-être vous en êtes-vous ému, même si les médias n'en parlent pas parce qu'ils n'en parlent pas. Ces derniers temps, en particulier dans notre beau pays de France, il n'y a peut-être jamais eu autant de profanations, de tabernacles, d'hosties volées, d'hosties piétinées, et l'adversaire de Dieu et les ennemis de l'Église ne s'y sont pas trompés. Il est amusant de lire dans les constats de gendarmerie que tel ou tel gendarme s'étonne ou se réjouit de ce que les vases sacrés, en or ou en argent, par chance, n'aient pas été volés. Mais ceux qui attendent au trésor de le tabernacle savent bien que là n'est pas le trésor de l'Église et que le trésor de l'Église est dans cette hostie qui ressemble à peine à du pain, mais sous les espèces de quoi Dieu est réellement présent. Et ces actes nous interpellent sur notre propre foi, notre propre amour et notre propre respect de l'Eucharistie. Et nous pouvons faire malheureusement également une comparaison, un parallèle entre ces tabernacles-là qui sont pillés, qui sont violés, et le tabernacle des âmes et des cœurs qui, eux aussi, peuvent être pillés, peuvent être profanés. Demandons ensemble à la Vierge Marie d'être des sentinelles de la présence réelle de Dieu dans le monde, d'abord dans notre propre cœur. Et je voudrais terminer en faisant mienne l'invitation que saint Jean-Paul II adressait à la fin de ce chapitre consacré à Marie, la femme eucharistique, et voilà ce qu'il nous invitait à vivre. Dans l'Eucharistie, l'Église s'unit pleinement au Christ et à son sacrifice, faisant sien l'Esprit de Marie, c'est une vérité que l'on peut approfondir en relisant le Magnificat dans une perspective eucharistique. En effet, comme le cantique de Marie, l'Eucharistie est avant tout une louange et une action de grâce. Quand Marie s'exclame « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur », Dieu est présent en son sein. Elle loue le Père pour Jésus, mais elle le loue aussi en Jésus et avec Jésus. Telle est précisément la véritable attitude eucharistique. Eh bien, nous allons faire nôtre cette prière du Magnificat, parce que nous croyons et nous voulons annoncer qu'en effet, dans ce mystère-là, Dieu s'est penché sur son humble servante, comme il se penche encore sur ses pauvres serviteurs. Nous croyons qu'il abaisse les superbes, qu'il dévise de leur siège les puissants, et qu'il relève les petits et les faibles. Ceux qui à ce mystère veulent opposer le raisonnement en seront quittes. C'est un mystère qui nous dépasse. Ce n'est pas un mystère qui nous écrase. C'est le mystère qui nous est demandé d'accueillir en notre chair, en notre cœur, en notre âme, pour que s'opère ce qui s'est opéré dans la vie de la très sainte Vierge Marie, que déjà nous connaissions quelque chose du mystère de l'Assomption, où nous le croyons, nous serons assumés en notre corps et en notre âme, non pas par nos seules forces, non pas par nos mérites, mais parce que celui que nous ne connaissions pas s'est abaissé jusqu'à prendre chair de notre chair, et qu'il n'a pas eu peur de se livrer jusqu'au bout, de se faire corps et sang pour notre vie éternelle. Demandons à la Vierge Marie de faire nôtre cette prière que le prêtre prononce à l'offertoire avant toute consécration eucharistique. Jetons-nous dans cet amour de Dieu comme la petite goutte d'eau plonge dans le calice rempli de vin, en disant avec confiance, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité et qui est réellement présent en son corps, en son sang, en son âme et en sa divinité dans l'Eucharistie, pour nous faire déjà goûter, dès ici-bas, notre destin éternel, où nous aussi serons plongés corps et âme dans la divinité de notre Dieu. Imprégnons-nous de ce mystère en chantant maintenant, si vous le voulez bien, le Magnificat, les paroles mêmes de la femme eucharistique.